Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Et si l'important n'était pas de prouver aux autres, mais de se prouver à soi-même? Ah, c'est sans doute ce que démontre la carrière de Bernard Campan, l'inconnu triomphant, en mal d'auto-reconnaissance, devenu l'inconnu reconnu. Dès le 29 janvier, Bernard Campan portera avec Isabelle Carré, au Théâtre de la Renaissance à Paris, une pièce annoncée comme le succès théâtral du printemps. Son titre, déjà, est une promesse, la dégustation. Voilà, une pièce dont l'auteur a signé le très réussi « Venise n'est pas en Italie ». Alors tout cela, bien sûr, mérite bien une balade avec Bernard Campan qui s'est échappé, comme ça, pour une petite heure, des répétitions.
Europe 1.
C'est formidable de l'accueillir. Bonjour Bernard.
Bonjour, je suis ravi d'être là.
Et moi donc de vous accueillir. Alors cher Bernard Campan, il paraît que vous êtes quelqu'un de compliqué qui cultive la simplicité.
C'est ce que j'ai dû dire effectivement à un moment, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Parfois je me trouve très compliqué, mais j'ai l'impression qu'une de mes quêtes c'est de trouver une forme de simplicité en tout, et les deux, c'est un peu une lutte entre les deux.
Oui, ça s'affronte. Hein.
Ouais, ça s'affronte, comme beaucoup de choses en soi, ça s'affronte, simplicité et complexité. Ouais.
Alors, généralement les artistes qui se connectent au public au travers de l'humour sont des êtres complexes. Mais pourquoi vous avez choisi comme première vie justement une vie d'humoriste ?
Alors, je ne l'ai pas choisi, hein. C'est la vie qui choisit. Hein. C'est comme ça. Moi, je suis monté à Paris quand j'étais jeune pour faire du théâtre. Je ne pensais même pas au cinéma. Et mon idole, c'était Gérard Philippe. Donc j'aurais voulu être Gérard Philippe en arrivant à Paris. Donc
carrément.
C'est pas vraiment
Allez,
ce qui
voilà,
s'est
c'est
passé.
Posé.
C'est l'humour à un moment qui a choisi pour moi, parce que j'ai toujours apprécié l'humour, mais une carrière de comique, c'était pas du tout attendu. Voilà.
Si Isabou Bretman n'était pas venu vous chercher en 2001 pour le très beau film Se souvenir des belles choses, dans lequel vous aviez pour partenaire, d'ailleurs, votre partenaire actuel au Théâtre de la Renaissance, Isabelle Carré, eh bien, vous l'auriez écrite comment la suite de votre histoire?
Ah, ben justement, voilà, c'est sans les autres, comment écrire l'histoire, sa propre histoire, c'est impossible. Mais je sais que je me posais des questions, je me disais, mais qu'est-ce que je veux, où je vais, même si ça se passait super bien avec les inconnus, j'arrivais pas à trouver ma place, oui, et c'était un peu difficile. Et sans l'intervention de Zabou, je ne sais pas ce qui serait passé, j'étais un peu perdu. Oui.
Bernard Campan, en fait, le registre de l'émotion, débarrassé de la nécessité, j'ai envie de dire presque contractuelle, de faire rire. Ça, c'est une découverte que vous avez vécue comment? Parce qu'elle vous a entraîné loin, Zabou.
Qui m'a libéré de quelque chose, c'est comme vous disiez, comme une obligation de faire rire. C'est quelque chose qui... D'ailleurs, aujourd'hui, quand je suis dans des émissions, parfois pour la promotion, où il faut faire rire, où ça devient une obligation, mais c'est terrible pour moi, parce que... Je me suis jamais senti une âme de comique, même si j'ai toujours apprécié l'humour. Donc, débarrassé de cette obligation de faire rire, comme vous dites, oui, je crois que ça m'a libéré d'un poids.
Mais alors, il y a vraiment une chose qui m'intrigue, Bernard Campan. Ouais. Pourquoi, pour un artiste, en tout cas pour un comédien, pourquoi le chemin se fait-il toujours dans le même sens? C'est-à-dire du rire vers l'émotion et jamais de l'émotion vers le rire. Coluche commence avec « C'est l'histoire d'un mec » et puis il finit avec « Ciao Pantin ». Pourquoi l'inverse n'existe pas?
Alors je cherche un contre-exemple parce que ça doit bien exister quand même.
Mais... Vous avez cherché longtemps.
Ah oui, c'est vrai, il n'y en a pas un qui me vient à l'esprit là. Ah oui, vous avez peut-être raison. Bah, en tout cas, c'est plus dans ce sens-là, le parcours. C'est ce qu'on a... Alors est-ce que c'est ça qu'on appelle la vis comica? Si on n'a pas la vis comica, logiquement, on se heurte à un mur, on n'arrive pas à faire rire. Hein, mais c'est vrai que je vois pas de contre-exemple. Vous avez raison.
Ouais.
J'aimais peut-être en fin d'émission, ça me venait.
je vous accorde le droit de chercher. Ouais. Bon, Bernard Campan, dans la nouvelle pièce d'Yvan Calberac, La Dégustation, qui démarre donc le 29 janvier au Théâtre de la Renaissance à Paris, vous abordez avec Isabelle Carré tous les registres dont un comédien puisse rêver. Je dois dire que le titre, vraiment, est déjà une promesse. Vous la résumez comment, l'intrigue? Parce qu'il s'agit d'une comédie romantique, mais pas du tout, en fait, construite comme la plupart des comédies romantiques.
C'est vrai. Et je m'en aperçois aujourd'hui qu'on est là, presque prêt à la jouer, qu'on est en répétition. Je m'en étais pas aperçu à ce point-là dans l'écriture. c'est comme si cette pièce qui est très drôle et qui commence de façon très drôle va basculer à un moment, et on ne peut pas dire qu'elle bascule dans le drame, mais c'est comme si tout d'un coup les secrets, les blessures des personnages arrivaient au grand jour, et donc on ne pouvait plus en rire comme au début. Mais ça reste quand même une comédie romantique, parce qu'on rit, parce que ça se termine bien, parce que... et parce qu'il y a de l'amour. C'est vrai que ce n'est pas construit de façon habituelle. Ouais.
Donc ça commence par le rire. Pour terminer dans l'émotion, en fait, c'était vraiment fait pour vous, Bernard Campan.
C'est
à l'image de votre chemin, de votre histoire.
C'est vrai, ça pourrait être un résumé, un peu de ma carrière pour l'instant. Je n'avais pas pensé non plus.
Ouais. C'est en compagnie de Bernard Campan qu'on se balade cet après-midi et que c'est agréable. On fait une très courte pause, on le retrouve tout de suite.
Un entretien à savourer sans modération, celui d'Isabelle Morizet avec ses invités. Jusqu'à 16h, vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Carré et Bernard Campan vont infuser de leur talent la pièce qui se joue dès le 29 janvier au Théâtre de la Renaissance à Paris. Elle a pour titre cette pièce La Dégustation. Et figurez-vous que Bernard Campan est cet après-midi mon invité. Alors, cher Bernard Campan, tout à l'heure, vous nous avez confessé en fait qu'en débarquant à Paris à l'âge de 19 ans, vous rêviez d'être le nouveau Gérard Philippe. Mais pourquoi ce fantasme du jeune premier romantique et fiévreux ?
J'ai toujours eu envie de faire du théâtre. Et je me souviens, alors j'étais en quatrième ou en troisième, on étudiait le CID. Et il y avait la photo de Gérard Philippe dans le CID. Et en posant négligemment, je ne sais plus, mon cahier sur la moitié du visage, je m'étais rendu compte que le haut du visage, les yeux, étaient particulièrement tristes. Et en fait, quand je cachais les yeux et qu'il n'y avait que la bouche, il y avait un sourire. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi ça m'émeut d'ailleurs. Extraordinaire qu'il puisse y avoir à la fois la gravité, la tristesse et le sourire dans une même expression. Et j'étais jeune. Et je sais que ça, c'était des petites choses qui m'ont donné envie de faire du théâtre.
C'est votre mère, n'est-ce pas, qui vous a inscrit au cours Simon ?
Oui, parce que...
Vous n'auriez pas osé seul en prendre l'initiative ?
Non, je crois que je ne sais pas comment ça se serait fait, mais j'étais parti après le bac. Donc j'ai eu mon bac, une famille de profs, passe ton bac d'abord. Enfin bon, il n'y a pas que dans les familles de profs qu'on entend ça. Mais j'ai eu mon bac et j'ai dit à ma mère, maintenant, après les vacances, je vais repartir, faire un tour du monde. J'avais envie de faire une sorte de tour d'Europe ou tour du monde, je ne savais pas.
La fameuse année sabbatique à l'anglo-saxonne.
Voilà. Et ça me plaisait bien l'idée, mais j'en avais un peu peur en fait. Et ma mère m'a dit ah, non, mais tu vas pas faire ça, tu vas revenir drogué de Katmandou. Non, je veux pas. T'aimes bien le théâtre. Je t'ai inscrit au cours Simon. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Un peu, ça m'a été imposé, mais j'en étais ravi parce qu'en fait, j'avais un peu peur de cette année sabbatique,
ça,
justement.
Ça vous a été imposé, dites-vous, par votre maman, qui en fait avait tout subodoré, elle connaissait son fils.
Oui, parce que en première et en terminale, j'ai eu la chance d'avoir un prof d'art dramatique, Jean-Marie Lardot, enfin vraiment un type extraordinaire qui m'a fait goûter déjà au plaisir de jouer, donc je savais que j'avais envie de
faire
du théâtre.
Mais dans un registre comique ou plutôt grave ?
J'aimais beaucoup faire rire. Mais j'aimais procurer aussi des émotions. J'aimais les deux, ça me plaisait énormément.
Alors, vous nous avez dit, votre père était professeur, papa intellectuel, musicien, fou de Jean-Sébastien Bach. Un papa d'ailleurs qui a été fait chevalier des arts et lettres. Un fils comédien, il n'était pas contre, mais il fallait un bagage structuré, c'est ça ? Parce que la maman vous inscrit au cours Simon, mais j'imagine que c'était aussi avec la bénédiction du paternel.
Oui, bien sûr, certainement. Mon père, je lui suis reconnaissant de ça. C'est que je crois qu'il avait un problème avec le théâtre, avec le spectacle vivant. Je pense que sa propre mère, ma grand-mère paternelle, donc, avait fait du théâtre en amateur et qu'enfant, il l'avait vu sur scène dans un Feydeau à moitié en chemise de nuit, un peu presque à demi nu, et ça l'avait choqué. Et il y avait, je pense, dans le théâtre, quelque chose de charnel qui le gênait. Il y avait quelque chose sur le contact, certainement, qui devait le gêner. Donc, il a accepté vraiment que je fasse du théâtre. Ça lui faisait plaisir de voir que je m'éclatais là-dedans. Mais ça lui a demandé, certainement, de dépasser un blocage, certainement, qu'il avait par rapport à ça.
Alors, vous avez été une fois infidèle au cours Simon, puisque vous avez passé une audition pour le cours Florent. Et il paraît que François Florent, en personne, le fondateur du cours Florent, vous a dit, au terme de cette audition, que peut-être il vous faudrait attendre de prendre un petit peu d'âge, comme il l'a dit d'ailleurs à Muriel Robin. Vous pensez que ça, c'était par rapport à quelle ambition, quel rôle, quel défi qu'il sentait que vous aviez envie de prendre qu'est-ce que vous avez présenté ?
Eh bien justement, ça m'a... Alors, je ne sais plus, parce que j'ai dû... Alors, moi, j'étais un gros flemmard, j'avais du mal à apprendre par cœur, et puis je n'avais pas très envie. Donc, j'avais appris Les animaux malades de la peste, et ça m'a servi pour toutes mes auditions. Ça m'a servi pour tout. Bon, mais arrivé au cours Florence, ce qui m'a été très utile, ça a été son... il m'a dit, voilà, t'as pas un physique évident parce que tu es entre le jeune premier et le valet. Vous savez, il y a des emplois comme ça au théâtre. Donc, t'es ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre. Et il va te falloir du temps pour que ton physique s'impose. Et il avait raison, ça s'est passé comme ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé à me dire, voilà, je suis pas Gérard Philippe, j'ai un physique à moi. Enfin, vraiment, en une audition, il m'a apporté autant, sinon plus, que le cours Simon.
Mais vous venez de nous dire, j'ai tenté le conservatoire. Juste tenté, c'est ça ? Vous n'avez pas été reçu.
J'ai passé le premier tour, j'ai eu le premier tour et j'étais recalé au deuxième tour. Ouais.
Ouais. On vous a dit pourquoi ? Est-ce qu'on dit pourquoi ?
Non, ils ne disent pas pourquoi. J'avais une scène de Harlequin de Goldoni et au conservatoire. Quand j'ai passé le Goldoni, je pense que ça leur a bien plu. Donc, ils ont eu envie de me revoir au deuxième tour et je m'en suis rendu compte parce qu'avant de passer la scène, ils se sont regardés entre eux. Il y en a qui ont dit, vous allez voir, c'est très bien ça.
Et on entend tout ça.
Et donc, j'ai passé ma scène. Bon. Mais... ils n'avaient pas besoin de moi, apparemment, pas besoin de mon... Vous savez, il y a des emplois, là aussi, au conservatoire. Si on a, on va dire, trois petits gros, on n'a pas besoin d'un quatrième,
ouais, ou j'en sais rien. Voilà.
C'est tout con. Hein.
Alors, je pose la question aux comédiens plus qu'estimés que vous êtes devenus. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans les cours de théâtre, Bernard Campan ?
La vie. On n'apprend pas ce que la vie nous apprend sur le temps, sur... vous savez, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
La vie, elle donne une patine qu'aucun cours jamais ne donnera.
Oui, forcément, ouais. Oui, forcément. Donc, et en même temps, c'est passionnant parce qu'on apprend énormément de choses dans un cours. Les relations entre les uns et les autres, forcément des textes, on apprend une base. Une relation avec un prof, c'est très important aussi. Donc, à la fois, c'est beaucoup et c'est pas grand-chose, un cours.
Europe 1.
On retrouve tout de suite, après une très courte pause, Bernard Campan.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit avec Isabelle Morizet et son invité cet après-midi, le comédien Bernard Campan.
Alors, cher Bernard Campan, le métier d'acteur procure un rapport au temps extrêmement particulier, car au travers de ses films, de ses photos dans la presse, de ses participations à des émissions de télé, eh bien, l'acteur est sans cesse confronté à son passé, à ce qu'il fut, à ses succès d'avant, à ses rôles d'avant, que la télévision d'ailleurs réinjecte dans le présent, un petit peu comme de la mémoire collective. C'est facile ou c'est compliqué à gérer ça ?
Ah là 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 là, c'est... on peut pas dire que ce soit facile. Et quand je me pose cette question, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes les catastrophes, à toutes les horreurs qui sont déversées dans l'humanité tous les jours. Je me dis, c'est quand même pas grand-chose, cette difficulté de gérer comme ça, cette image, ce temps qui passe quand on est comédien. Et pourtant, ça reste une difficulté, ça reste comme un petit caillou dans la chaussure parfois. On aurait envie de s'en débarrasser. Et en même temps, c'est notre image qui est vendue comme ça, qui est donnée, qui nous permet d'exister. Donc il faut bien composer avec ça.
Vous regardez, lorsque un film des inconnus passe à la télé, vous regardez ou vous zappez ? Vous avez un œil critique, un œil attendri ?
Ça dépend. Ben, par exemple, l'autre jour, ils ont diffusé la pièce que j'avais jouée
avec Thierry Lhermitte.
J'ai regardé le début. Voilà, mais ça a été dur pour moi.
Pourquoi ?
Pour plein de raisons.
Cette pièce a été un triomphe.
Ouais, mais j'ai eu la sensation, et je pense que c'est vrai, hein, de me souvenir au moment où j'ai regardé cette rediffusion, j'ai eu l'impression de me souvenir des effets que je loupais un peu, qui passaient moins bien, et à chaque fois je me disais, oh là là, ça rigole pas, oh là là. J'ai toujours l'impression que je foire les effets, Mais bon, c'est comme ça. Hein.
Alors, je continue de creuser parce que
oui,
ça m'intéresse
creusons,
vraiment.
Creusons.
Par exemple, la période des Inconnus, le trio que vous avez formé avec vos camarades Pascal Légitimus et Didier Bourdon, représente hors cinéma, 11 années de votre vie. Mais les sketchs que vous avez créés ensemble ont fait au total 700 millions de vues sur Internet. C'est absolument magistral, c'est hallucinant, c'est plus fort que les clips de Beyoncé. 700 millions de vues sur Internet. Comment réagissez-vous quand le public et les journalistes donc, vous ramènent à cette période-là alors que vous n'avez pas fait de scène ensemble depuis presque 25 ans ?
Bah, moi, je suis très admiratif de ce qui a été fait par les Inconnus. Et j'en parle vraiment de façon très, comment dire, détendue, puisque c'est pas moi, les Inconnus. Donc, voilà, c'est un groupe, et je peux le mettre à distance.
C'est vous, pour un tiers, et pourtant, c'est pas vous.
Et pourtant, c'est pas moi. Donc, quand je dis les Inconnus, c'est très libérateur. Je trouve que ce que les Inconnus ont fait, c'est formidable. Il y a vraiment des sketchs magnifiques, beaucoup d'inventions, de drôleries. Et quand on fait référence aux Inconnus, moi, ça me fait plaisir, ça peut me flatter aussi, je trouve ça réjouissant, je trouve ça très réjouissant. Maintenant, aussi j'ai la chance d'exister, de continuer de faire une carrière. Peut-être que si j'avais pas continué de faire une carrière derrière, ça serait plus dur pour moi d'entendre cette référence avec
Bien
le
sûr.
Passé, d'être ramené vers le passé tout le temps, quoi.
Alors justement, Bernard Campan, on dit que c'est le producteur Paul Lederman qui aurait provoqué la fin de la carrière sur scène des Inconnus pour une sombre histoire contractuelle, car c'est lui qui a déposé le nom Les Inconnus. Mais sans Paul Lederman, l'issue, de toute façon, aurait été la même. Vous commenciez à rêver d'autre chose ?
De toute façon, les Inconnus auraient bien fini par s'arrêter. Et si on trouve la bonne goutte d'eau, on peut repartir, mais on ne peut pas repartir comme en 40, enfin, on ne peut pas repartir comme avant. Si on y revient, eh ben, ça sera en clin d'œil, ça sera donc un clin d'œil par rapport au passé, par rapport à ce qui a été. Donc ce qui a été très bien, mais c'est vrai que j'ai du mal aujourd'hui à imaginer que les Inconnus, un Inconnu revival pour la durée, quoi. Ouais.
Alors Bernard Campan, il y a eu la rencontre avec Zabou Breitman qui vous a valu d'être nommé au César pour se souvenir des jolies choses. Puis la rencontre avec Bertrand Blier qui vous a mis carrément dans les bras Monica Bellucci et qui vous a fait jouer avec Depardieu. Blier un jour a dit de vous que vous étiez un loser gagnant. C'est un emploi très vaste au cinéma et au théâtre, cet emploi de loser gagnant.
Oh, bah, s'il était si vaste que ça, j'aurais plus de propositions aujourd'hui. J'avais bien aimé, moi, cette définition. Enfin, Blier, il en a plein des images et des définitions. C'est pas mal. Mais finalement, on revient un petit peu à ce qu'avait dit François Florent, c'est-à-dire d'une espèce d'entre-deux, de ni valet, ni jeune premier. Donc, voilà.
Oui, mais c'est là où se situe, en fait.
Ouais.
Où s'y situe la sève même de l'existence,
peut-être,
avec ses rêves, ses défis à lancer, sa mélancolie. C'est infiniment plus riche à travailler.
Peut-être, parce qu'il y a... Le plus difficile, c'est d'avoir une image trop définie, trop arrêtée, trop... que ce soit parce qu'on est trop beau ou parce que j'en sais rien, mais... Donc d'être dans un entre-deux, entre deux eaux, parfois, ça donne plus de possibilités, oui, plus de matière A, plus... oui.
Bernard Campan, serait-ce finalement ce que vous êtes, un loser gagnant dans la nouvelle pièce d'Yvan Calberac, La Dégustation, la pièce que vous créez donc dès le 29 janvier avec Isabelle Carré au Théâtre de la Renaissance à Paris. La formule de Bertrand Blier à nouveau colle au personnage que vous incarnez ?
Ben, c'est pas exactement un loser, mais ça peut être un gagnant, puisque c'est quand même une histoire d'amour qui se termine bien et elle est mal partie au départ. Donc oui, on peut retrouver la formule du loser gagnant. En tout cas, c'est pour parler un peu de la pièce, c'est un caviste, hein, il tient une boutique de vin, c'est quelqu'un qui est déçu par la vie, qui a un secret, justement une fêlure, une brisure, et qui va rencontrer donc une femme un peu marginale, un peu étonnante, parce que très catho, qui bosse avec son curé, mais en même temps qui a un petit grain de folie comme ça, qui est donc Isabelle Carré. Et une histoire d'amour assez improbable va se faire, hein. Il n'y a pas de... ça se termine bien, donc voilà, je préfère le dire. Donc ça va exister. Et c'est donc une... oui, c'est un peu, le, pour mon personnage, c'est un peu le loser qui va finir par gagner.
Mais alors, bien sûr, je précise que la pièce n'est pas un duo simplement entre Isabelle Carré et Bernard Campan sur la scène du Théâtre de la Renaissance. Non, non, il y a trois autres acteurs fabuleux également, dont un très, très jeune prometteur dont le rôle est important dans l'intrigue parce qu'il va provoquer plein de rebondissements, en fait, dans cette histoire entre Isabelle Carré et vous, Bernard Campan.
C'est le troisième rôle indispensable à la... au déroulement de la pièce. Donc ce jeune, alors c'est Mounir Amamra qui interprète le rôle, ce jeune délinquant qui braque les bijouteries, qui dort en prison la journée, qui cherche un stage de réinsertion professionnelle, qui va donc trouver chez mon personnage la possibilité donc de faire apprenti caviste. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire à trois. Il y a deux autres personnages aussi, Olivier Clavry qui joue le docteur, parce que mon personnage a besoin d'être suivi par un docteur. Et, qui abuse un peu trop de l'alcool et ça inquiète beaucoup son docteur, et un voisin libraire qui est joué par Éric Viellard, qui lui fait tout pour que son ami, son pote caviste, trouve une femme à son pied, si on peut dire.
Europe 1. On retrouve tout de suite Bernard Campan.
Il est précisément 15h30, confidence et bienveillance sur Europe 1. Nous sommes avec Isabelle Morizet jusqu'à 16h et vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Il est rare au théâtre d'être mis en scène par un auteur à la fois nommé au Molière pour ses pièces et nommé au César pour ses films. Eh bien, c'est pourtant ce que savoure en ce moment Bernard Campan, dirigé par Yvan Calberac, dans sa pièce La Dégustation, annoncée vraiment comme le succès théâtral du printemps. La Dégustation commence le 29 janvier au Théâtre de la Renaissance à Paris. Et j'ai convié pour vous Bernard Campan. Alors, cher Bernard, si votre chemin à vous, ex-humoriste du trio des Inconnus, est passé par d'autres paysages que ceux traversés par vos camarades Didier Bourdon et Pascal Légitimus, vous le devez peut-être aussi, je m'avance, hein, mais il me semble que vous le devez peut-être à ce personnage hors norme qui a éclairé votre vie de son amitié, le philosophe Alexandre Jolien, à la fois brillant universitaire, humaniste fervent et porteur d'un handicap de naissance qui ralentit sa parole, mais pas ses idées. Vous êtes rencontré comment, en fait, avec Alexandre Jolien ?
Grâce à une émission télé. Je l'ai vu dans une émission de télé. C'était Tadei, je ne sais plus, il y a maintenant...
Qui est sur notre antenne ?
Oui. Et il y a maintenant 15, 16 ans, je ne sais plus. Il y a très longtemps. Et voilà, j'étais vraiment touché au cœur par ce qu'il disait, par ce qu'il était. Et donc, je suis rentré en contact avec lui. On s'est parlé... on s'est appelé tous les jours. Et d'ailleurs, pendant des années, on s'est appelé tous les jours.
Vraiment ?
Oui. Là, je dirais qu'aujourd'hui, on s'appelle 2-3 fois par semaine seulement.
Mais parce qu'on va l'expliquer, il vit très très loin, à l'autre bout de la planète, il y a un décalage horaire.
Il est rentré,
il est en Suisse. Parce que je sais que vous avez même emmené votre famille, vos enfants à Séoul.
On est allé à l'époque, on est allé les voir.
Pour découvrir la planète sur laquelle ils vivaient.
Oui, il est resté 3 ans à Séoul. C'est un ami, on est très proche et très... y a une intimité très forte entre nous. C'est assez inexplicable, hein, d'ailleurs, ce qui se passe entre Alexandre et moi.
Mais cette rencontre, Bernard Campan, elle est intervenue à un moment de votre vie où, justement, vous vous interrogiez sur la spiritualité. C'est pour ça qu'il y a eu cette accroche si naturelle ?
Oui, j'étais en chemin, on va dire ça comme ça. Hein, et donc, on a vraiment partagé autour de ce qu'on pourrait appeler une certaine philosophie, en tout cas la spiritualité, ça a été notre un cheminement vers le bonheur, quoi.
Alors, puisque le but est de trouver de la manière la plus juste sa vraie place, je voudrais savoir, Bernard Campan, s'il est vrai que Alexandre Jolien vous a poussé à transformer, par exemple, le scénario initial du premier film que vous avez réalisé seul, La Face Cachée, film qui est sorti en 2007.
Ouais.
Vous lui avez fait lire le scénario et il vous a dit... C'est pas toi.
J'étais en train d'écrire un scénario qui d'ailleurs a fini dans un tiroir, enfin on peut dire à la poubelle, et j'arrivais pas à le terminer, ce scénario. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alexandre. On passe une journée ensemble, on discute, et je lui dis: tu veux lire mon scénario? Et comme lui, il a une difficulté pour lire, il est sur les livres audio, il a du mal à lire, ça le fatigue.
Oui.
Il me dit non, mais raconte-moi plutôt. Alors je lui raconte. Ah, il dit ouais, c'est pas mal. Et je le sens un peu tiqué. Je dis peut-être, ça te plaît pas.
Juste pas mal.
Ben, il dit non, mais je dis mais qu'est-ce qui. Ben, il dit j'ai en face de moi quelqu'un avec son. Sa particularité, son originalité, et qui me raconte une histoire que je trouve un peu, et là je sais plus quel mot il emploie, mais un peu une histoire un peu pas banale,
tiède.
Mais ouais, sans
aspérité.
Oui. Et puis c'est à partir de là où j'ai commencé à réfléchir et j'ai abandonné ce scénario que j'écrivais.
Et vous avez réécrit autre chose.
Et je suis parti sur un autre scénario et il m'a dit je t'aiderai à aller jusqu'au bout, je te lâcherai pas la main. Et il m'a pas lâché la main.
Et il n'a pas lâché la main.
Il m'a guidé, mais sans me donner la moindre idée. D'ailleurs, il me disait, je m'en voudrais, ça serait un échec pour moi si je te donnais la moindre idée pour ton scénario. Il faut que ce soit toi.
Ce n'était pas du tout une démarche vampirisante.
Non, absolument pas. Ce n'était pas une coécriture. Alors, contrairement, donc j'en parle, à moins que vous vouliez en parler, mais on a donc un projet de film.
Mais oui, voilà. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, je voudrais savoir, parce qu'il a beaucoup d'humour et il sait être provocateur, Alexandre Jolien.
Ouais.
Je voudrais, Bernard Campan, que vous nous racontiez ce que le plus simplement du monde, donc votre ami, le philosophe Alexandre Jolien, qui vivait alors en Suisse, a réussi à vous faire faire la toute première fois qu'il vous accueillait à la descente du train à Lausanne.
Ah, ah c'était super. Il faisait beau, ça devait être l'été, hein, juillet, août. C'était la première fois donc, qu'on se rencontrait, après s'être parlé de nombreuses heures au téléphone, hein, quand même.
Mais vous étiez encore jamais vu physiquement.
Physiquement, non. Ouais. Et donc, il me dit, tu veux qu'on aille balader? Je dis, j'ai ma valise. Il dit, on passe chez moi, donc on pose ma valise et comme il était au bord de la Clément, on commence une balade et à parler de la vie, de la spiritualité, de la philosophie. Et puis à un moment, il me dit « Tu veux qu'on se baigne ?»
En descendant du train.
Ah bah oui, me baigner je veux bien, mais
tu vois, pantalons.
J'ai pas de shorts, j'ai rien. Il y a quand même des gens qui se baladaient partout. Il dit « Oh, c'est pas grave ». Et donc il commençait à se dessaper, on s'est baigné dans le lac Clément. Comme ça, en slip, devant tout le monde.
Vous savez qu'en Suisse, des flics pouvaient arriver très très rapidement.
Ah ouais, mais et sans parler du fait qu'Alexandre, lui, on peut dire qu'il arrive à flotter, mais on ne peut pas dire qu'avec son handicap, il ne peut pas nager, véritablement. Donc il est obligé de se mettre sur le dos pour arriver à flotter un peu. Donc on s'est quand même baigné comme ça, tous les deux, la première fois qu'on s'est rencontrés.
En fait, c'était une épreuve. Il vous a soumis à un test.
Non, je pense pas. C'est qu'Alexandre est très spontané et quitte à faire dire des conneries, il fait les choses de façon très impulsive.
Alors, par exemple, est-ce que c'est de manière impulsive qu'il est parti vivre à un moment donné de sa vie en Corée du Sud, à Séoul, en embarquant toute sa famille?
C'est à la fois un coup de tête, c'est vraiment du jour au lendemain. On part à Séoul, là, on a 2 mois devant nous pour faire les bagages, pour vider la maison, on vend les meubles, on part à Séoul. Donc, combien de temps? On ne sait pas, peut-être un an. Voilà, ils sont restés 3 ans,
finalement. Il vous a expliqué pourquoi ou pas du tout?
C'est parce qu'il avait rencontré un instructeur spirituel, qu'il avait vraiment envie de se confronter au zen. Et cet instructeur à la fois pratiquait le zen et on pourrait dire le zen chrétien. Il y avait aussi le Ignace de Loyola et le zen.
Bernard Campan, alors, il va voir le jour ce film, paraît-il, autobiographique que vous projetez de faire ensemble, vous l'artiste, lui le philosophe.
Le scénario est terminé.
Ah, déjà ?
Oui, le scénario est terminé, on doit tourner en septembre de cette année.
Il joue dans ce film ?
Et Alexandre jouera dans le film, il a coécrit, on est 4 co-auteurs en tout à leur écrit, ça n'a pas été facile. Mais le film est écrit et c'est Philippe Godot qui a produit mon premier film, qui a même produit les 3 frères numéro 2, enfin qui a un ami et qui est toujours proche, donc qui produira le film. Donc,
mais c'est vous qui réaliserez.
Alors pour l'instant, on se pose même la question de savoir si je ne vais pas faire en co-réalisation, parce que ça peut être très difficile avec le rôle que j'ai et le fait qu'Alexandre, n'étant pas comédien, on est en questionnement par rapport à tout ça.
Il est un peu tôt pour vous demander... Oui, il ne dira rien sur le thème, sur le sujet, un petit peu trop tôt.
Non, mais c'est une rencontre, c'est ça qui est autobiographique, on va dire. C'est la rencontre entre ces deux êtres. Sauf que là il se trouve que là moi je suis pas comédien, je suis croque-mort, donc c'est quand même pas le même métier, et Alexandre n'est pas philosophe de profession, mais il a quand même la philosophie en tête Ils livrent des légumes bio. Alors oui, c'est pas exactement la même chose, mais voilà.
Bon, on a hâte de découvrir. Voilà. Et ça, c'est le projet qui succédera à la pièce de théâtre qui démarre le 29 janvier, justement, au Théâtre de la Renaissance, à Paris.
Voilà.
La dégustation d'Yvan Calberac avec Isabelle Carré. Allez, on fait une brève pause et on retrouve Bernard Campan.
Il n'a rien d'un inconnu et se souvient des belles choses. Bernard Campan se raconte au micro d'Isabelle Morizet cet après-midi. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Bernard Campan, est-ce que la carrière d'un acteur, aujourd'hui, se joue forcément avant ses 40 ans? Parce que je pense à De Funès, qui est devenu célèbre après 50 ans. Ça, c'est un cas de figure impossible aujourd'hui? Difficile en tout cas.
Non, pas du tout. Je pense qu'il y a... les exemples ne me viendront pas à l'esprit, hein. C'est toujours pareil, hein. J'ai du mal moi à trouver des exemples, mais tout est toujours possible, on peut commencer une carrière très tôt ou très tard. La carrière est toujours en devenir, est toujours en fabrication, elle est toujours, c'est une matière vivante.
Mais le métier d'acteur est plus complexe aujourd'hui que lorsque vous avez débuté, ou pas?
Je pense que tout est plus complexe aujourd'hui, parce que la vie est plus complexe, on le voit bien, on voit bien par rapport aux médias, par rapport à plein de choses, au numérique. La vie est extrêmement... se complexifie énormément. Donc oui, le métier de comédien est peut-être plus complexe, moins basique, moins simple qu'avant, je pense, oui.
Alors j'imagine bien sûr, Bernard Campan, que sur les tournages, il y a des acteurs avec lesquels vous avez joué qui vous ont laissé un souvenir peut-être plus intense que certains, forcément. Je voudrais savoir, vous avez été très très gâté, Bertrand Blier par exemple, vous a mis à l'affiche avec Depardieu. Qu'est-ce qu'il faut mettre en alerte quand on joue avec Depardieu?
Je ne sais pas ce qu'il faut mettre en alerte, mais on est en alerte forcément. On m'avait dit d'ailleurs, Depardieu avait 15 jours de tournage dans le film de Bertrand. Et
combien tu m'aimes?
Combien
voilà,
tu m'aimes?
Voilà, le film que Blier avait tourné en 2005.
Et on m'avait dit, tu vois, quand Gérard va arriver, ça va tout changer. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui va changer? Mais tu vas voir. Et effectivement, c'est un monstre sacré. Il en impose de partout, son physique, par son talent, par son intelligence, par ses excès en tout. Donc, moi, j'ai gardé un souvenir. On n'a eu qu'une scène ensemble, finalement, je crois. Enfin, en tout cas, voilà, on était face à face, à table. Et donc, Depardieu demande donc aux machinaux de poser ses fameux... ces trucs écrits, là, son texte.
Alors, oui, parce qu'il faut expliquer que souvent, n'est-ce pas, il a des post-it avec ses répliques.
Alors, ça peut être des post-it, mais bon, là, c'était simplement écrit en un peu plus gros. Tiens, là, tu me le mets là, celui-là, voilà, celui-là, tu me le mets là, voilà, un peu plus comme ça. Et donc, je trouvais ça quand même assez extraordinaire. Et il voit ma réaction, il me dit, quoi, ça te dérange? Ah, je dis, non, mais vas-y, fais-le. Ah, je dis, non, moi, je suis incapable de faire ça, non, j'ai beaucoup d'admiration, il n'y a pas de souci. D'accord.
Donc il impose naturellement.
Ouais.
Et en fait, il impose sa façon de travailler.
Mais il peut très bien, pour une scène avec Monica, il savait le texte au rasoir. Mais voilà, là il n'avait pas appris le texte. Mais en même temps, une intelligence très, très fulgurante.
Alors, il vous a gâté également, oublié, dans ce film, combien-tu-même, parce qu'il a quand même mis la sublime Monica Bellucci, pratiquement dévêtue d'ailleurs pendant toute la durée du film, dans vos bras. Ça doit être compliqué de ne pas se prendre pour un tombeur dans ce cas-là, Bernard Campan, non?
Ce fut émoustillant, oui, je reconnais. On a des scènes nues, juste avec le petit triangle posé à l'endroit où il faut, là, qui nous préserve de contact des parties les plus intimes. Mais oui, c'est assez forcément. Et puis, elle joue beaucoup de ça. C'est une fille aussi très intelligente. Il y a beaucoup d'humour et voilà.
Elle est très dans le second degré, Monica Bellucci.
Elle est, franchement, moi je l'ai trouvée très classe, très intelligente et très sympa avec moi, quoi. Parce que c'était pas évident pour moi pour elle, ça l'était encore moins. Elle allaitait, dès qu'elle avait un moment, elle partait allaiter dans sa caravane son premier bébé, je crois. Donc à la fois, elle dormait 3 heures par nuit, elle assurait. Non, j'ai trouvé ça assez remarquable.
Ouais. Alors, Bernard Campan, on parle cinéma, mais revenons au théâtre et justement à ce qui vous occupe en ce moment avec cette nouvelle pièce au Théâtre de la Renaissance à Paris, intitulée La Dégustation. Yvan Calberac, l'auteur et metteur en scène de cette pièce, a fait des films, a été nommé au César. Donc, ce n'est pas à proprement parler un homme de théâtre. Alors, Je voudrais savoir, d'ailleurs en ce moment, il termine son prochain film avec Benoît Poulvorde et avec Valérie Bonneton. J'aimerais bien savoir si un homme qui fait du cinéma fait forcément des mises en scène de théâtre différentes.
Je ne sais pas, je ne pourrais pas généraliser. En tout cas, avec Yvan, une des grandes qualités qu'il a, il n'y en a pas qu'une, c'est son ouverture d'esprit et cette possibilité qu'il a de mettre son ego dans la poche et de dire voilà, moi je vous propose un texte, dites-moi ce que vous voulez, les réflexions que vous voulez. Et pour la mise en scène, c'est pareil. Si on lui propose quelque chose, il est ravi, il prend ou il ne prend pas. Mais il est très, très ouvert. Donc, il sait prendre les choses et construire avec nous, ensemble, la mise en scène.
Oui, parce que Isabelle, elle a signé des mises en scène de théâtre en 2015, par exemple, n'est-ce pas ?
Oui, puis elle écrit très bien aussi. Donc c'est
mieux que très bien.
Magnifique son livre. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Et j'adore, moi, cette confrontation et proposition.
Et c'est drôle parce que vous êtes, en fait, un solitaire dans la vie vraie qui adore bosser en équipe.
Oui, je pense que ça a été lié beaucoup au départ. Et c'est bien parce que toutes les failles, les fêlures sont toujours, servent toujours. Parce qu'au départ, ce manque de confiance qui m'a toujours habité m'a fait aller vers les autres. Même m'accrocher aux autres, au secours, aidez-moi, tout seul, j'y arriverai pas. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est fructueux et ça s'est transformé, tout ça, en un travail d'équipe et d'aimer. Et de toute façon, on ne fait rien tout seul, ça n'existe pas. Je crois pas. Même Céline, qui a écrit son Voyage au bout de la nuit tout seul, je sais pas si avant de le proposer chez un éditeur, elle a pas fait lire à une femme. Ça, c'est qui a validé son travail. Non, je crois que... voilà.
Europe 1. Ah, la réflexion est belle. Alors, on va rester sur cette idée. Et puis, on retrouve dans un bref instant mon invité, justement, Bernard Campan, au Théâtre de la Renaissance à Paris, dès le 29 janvier, pour la dégustation. À tout de suite.
Il est 15h51 et cet après-midi, nous sommes en compagnie de Bernard Campan. Depuis 15h, Isabelle Morizet retrace son parcours de comédien. On les retrouve pour la suite et fin de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Bernard Campan, ce qui est bien avec l'âge, c'est qu'on a le droit d'être péremptoire. Alors moi, j'aimerais bien savoir si vous partagez en fait l'avis de l'écrivain américain Scott Fitzgerald quand il affirme « Toute vie, bien entendu, est un processus de démolition ». Vous êtes d'accord avec ça ? Ou bien vous pensez plutôt, comme certainement votre ami le philosophe Alexandre Jolien, que toute vie, au contraire, est un processus de reconstruction ?
Alors, si c'est démolition par rapport à, en opposition à la reconstruction dont parle enfin, le livre d'Alexandre, je crois que c'est la construction de soi. Si c'est en opposition à pour moi, l'existence, le cheminement dans l'existence est une entreprise de démolition. Mais je pense que le thème dans la spiritualité, pas le plus fort, mais un des thèmes qui m'est cher, c'est le thème justement de se débarrasser, d'enlever ce qui est en trop, quoi.
Les oripeaux.
Les oripeaux, ouais.
Vous rêvez à quoi en ce moment, Bernard Campan ? Vous rêvez à quoi qui pourrait bien se réaliser dans les années qui viennent ? Parce que vous êtes à un âge où on peut commencer à regarder derrière son épaule disant « Ah oui, ça j'ai fait, formidable, mais ça, est-ce que j'en ai encore envie ? Est-ce que j'oserais ?»
Ouais. Alors ce que j'aime beaucoup moi dans mon métier, c'est la diversité. C'est l'écriture m'épuise, mais au moins quand j'ai fini d'écrire, je suis content de faire autre chose. Et je suis content de jouer. Jouer au théâtre, au bout d'un an, quand on joue un an, déjà c'est énorme, mais 3-4 mois, c'est épuisant. Donc je suis content de retourner à l'écriture ou peut-être d'avoir un rôle au cinéma. Bon, donc j'aime cette variété. Pour moi, mon rêve, c'est d'être dans cette alternance et d'être le plus possible dans des projets qui me porte,
Donc continuer de ne pas avoir qu'une seule vie.
Oui, c'est ça. Et puis là, on parle du métier, mais bon, continuer de suivre mes enfants, de les aider à grandir, de continuer mon couple. Parce que même après 30 ans qu'on est ensemble...
C'est rare dans ce métier.
Ouais, peut-être rare tout court, d'ailleurs, non, je sais rien. Mais c'est formidable, un couple, c'est pas facile. Il y a des périodes où on se demande, non pas ce qu'on fout ensemble, mais on se dit, merde, quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de... Donc comment faire en sorte que le couple se renouvelle, etc. Donc mes rêves, c'est ça, c'est d'être neuf tout le temps, essayer d'apprécier la vie le plus possible et de me sentir neuf, de pas tomber.
Vous recherchez la sérénité, mais pareil, vous êtes quelqu'un qui aime bien se faire peur quand même. Parce que, par exemple, j'ai appris que lorsque vous étiez gosse, Bernard Campan, eh bien, vous jouiez à vous faire peur au point que vous étiez capable de vous suspendre au-dessus du vide, d'un balcon carrément du cinquième étage, alors que vous avez un vertige abominable. Aujourd'hui, vous continuez de plein d'autres façons à vous faire peur ?
Non, je ne cherche pas à me faire peur. Je cherche au contraire à apprivoiser plutôt que... Par exemple, je pensais à la mort. La mort m'a toujours fasciné. Alors, intrigué, fait peur, etc. Et aujourd'hui, je cherche plutôt à apprivoiser l'idée de la mort. Donc, je ne cherche pas à me faire peur. Mais par contre, c'est vrai, à me mettre... à sortir d'un confort, en tout cas. Mais je ne cherche pas à me faire peur, non.
On a appris beaucoup de choses sur vous cet après-midi. En fait, j'ai envie de dire que pour le public qui vous adore depuis 35 ans, vous êtes... Il n'y a pas de jeu de mots dans ce que je veux dire, mais vous êtes réellement un inconnu. Qui s'est dévoilé cet après-midi, mais...
C'est vrai que c'est agréable de
qui pouvoir... aime se cacher derrière, c'est ça?
Ah non, je ne sais pas si je cherche à me cacher. J'ai du mal à me connaître, moi, donc je peux imaginer que les gens aient du mal à savoir qui je suis. Parce que déjà, moi-même, j'ai du mal à me comprendre, finalement. Qu'est-ce que... Quand je vois, justement, vous parliez de la début de carrière, quand je revois des images de ce jeune de 25 ans avec la tête qu'il avait... Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il avait dans sa tête? Je ne sais même pas exactement. On n'est pas la même personne toute sa vie. On a plus d'une vie dans une vie.
Donc voilà.
On est toujours sur ce thème-là. Donc, tout ça est toujours en mouvement, en changement. C'est ça, la vie. La vie, c'est au moins le changement. La vie n'est que changement. Donc, les Tibétains, ils disent pareil à la flamme d'une bougie. Ni jamais tout à fait la même, ni jamais tout à fait une autre. La bougie, c'est une combustion, la flamme. Donc, on dit, ah, ben, c'est une flamme. Mais non, on ne peut pas signer comme quoi c'est une flamme. C'est un mouvement. Donc soi-même, on est tout le temps en mouvement et je trouve ça très difficile de savoir qui on est, c'est-à-dire de figer qui on est.
Bon, on va rester sur ce proverbe tibétain, Bernard Campan, grâce à vous, voilà, et sur la flamme de la bougie. La pièce démarre le 29 janvier au Théâtre de la Renaissance. Ce serait bien dommage de ne pas y courir. Vous avez pour partenaire la merveilleuse Isabelle Carré. Merci infiniment de vous être confiée ainsi cet après-midi.
Merci,
c'était
Isabelle.
Formidable.
Ouais, c'était super pour moi. Vraiment. Merci. Merci beaucoup.
Je vous embrasse. À bientôt.
Ainsi s'achève ce tête-à-tête avec Bernard Campan. C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et demain, Isabelle Morizet se baladera dans le parcours de Luc Ferry, invité donc à se raconter à l'occasion de la parution d'un ouvrage, Le Dictionnaire amoureux de la philosophie, édité chez Plon. Europe 1.